Alors, c'est un jour de fête. La Pentecôte est un jour de fête pour les chrétiens. Est-ce qu'on se rappelle encore beaucoup dans notre entourage de ce que c'est la Pentecôte? Dans notre monde christianisé, on va le mettre entre guillemets peut-être, qui sait qu'est-ce que c'est que la Pentecôte? Eh bien, on va retourner dans le texte et on va redécouvrir ce qu'est la Pentecôte. On va lire dans le chapitre 2, dans le livre des Actes. On ne va pas lire tout le chapitre, on va lire simplement quelques versets, jusque du 1 au verset 14. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est comme si on était là aujourd'hui, tout le monde est rassemblé dans un lieu, mais il y a beaucoup de monde. Puisque ce jour-là, il y aura 3000 personnes qui vont se convertir, ça veut dire qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs d'hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langage maternel ?» Dans notre langue maternelle. Pathes, Mèdes, Alémides, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Voilà, on va s'arrêter là, et on va retracer un petit peu cette fête de Pentecôte. Cette fête de Pentecôte qui est aussi appelée la fête des semaines. Jésus avait dit à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Et le livre des Actes nous montre l'accomplissement de la promesse du Père. Le Saint-Esprit, personne divine, le Saint-Esprit on ne le voit pas, mais c'est une personne divine, c'est une personne qui vient habiter en nous. Par son esprit, Dieu vient habiter en nous. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il descend sur chacun des croyants présents. Aussitôt après avoir reçu cette puissance, les disciples sont rendus capables de s'exprimer en d'autres langues. Il y a complètement une transformation complète qui se fait dans la vie de ces gens. Cela nous enseigne que le message de l'Évangile est maintenant pour tous les hommes, sans distinction de nationalité. La Pâque, qui était la première des fêtes juives, a eu son accomplissement à la croix de Golgotha. Là où l'agneau de Dieu a été sacrifié, Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dira, notre Pâque, Christ a été sacrifié, en 1 Corinthiens 5, verset 7. La fête des prémices, qui veut dire premier, ou premier fruit de la moisson, fête célébrée le lendemain du sabbat, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, qui représente le jour de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Cette fête se réalise 50 jours après la fête des semaines, ou résurrection. Cette fête est appelée donc ici Pentecôte. Elle s'accomplit donc au chapitre 2 des Actes. L'offrande de gâteau qui était présentée le jour de cette fête, cette offrande des prémices, c'est cette offrande qui représente les premiers fruits de la saison, a un sens très profond pour nous. Elle préfigure les croyants de toutes les époques, dont le rassemblement a son point de départ là, en ce jour de Pentecôte, ce premier Pentecôte. Ils sont donc les premiers chrétiens, les prémices de l'humanité rachetée, les premiers cadeaux que Dieu offre à Jésus-Christ, l'Église, épouse du Christ. C'est la nouvelle alliance. Nous sommes, en quelque sorte, des cadeaux que Dieu fait à son Fils, nous les rachetés. Nous sommes les premiers, les prémices. Chaque chrétien devient un prémice, un cadeau pour Dieu, pour son Fils qui a donné sa vie pour nous racheter. Nous recevons donc une nouvelle vie par la foi dans la parole de Dieu. Nous avons été engendrés, ce qui veut dire que, engendrer veut dire concevoir, donner vie, donner naissance. Nous sommes donc conçus, nés à une nouvelle vie, et pour une nouvelle vie. L'apôtre Jacques rappellera ceci dans Jacques 1, 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premiers de ses créatures. Il nous a engendrés par la parole de Dieu, par la parole de vérité. Nous avons cru dans la parole de Dieu et nous avons été engendrés par la foi. Nous sommes devenus enfants de Dieu par la foi. C'est ainsi que la mort du Seigneur, sa résurrection et la descente du Saint-Esprit pour former l'Église sont les fondements qui caractérisent la période chrétienne. On est passé du judaïsme au christianisme, de la loi à la grâce. La loi qui avait été donnée par Moïse, c'est quelque chose de terminé ce jour-là. C'est quelque chose qui a pris fin le jour de la Pentecôte. Et le jour de la grâce de Dieu prendra fin aussi. Ce jour où l'Église est en train de se former aujourd'hui aura aussi une fin. Le jour où le Seigneur convoquera son Église pour les noces de l'agneau. Nous sommes dans cette période aussi de grâce où chacun peut rentrer depuis la Pentecôte dans le royaume de Dieu. Mais cela a une fin aussi. Comme le judaïsme a une fin, le christianisme aura aussi une fin. Nous sommes dans le temps de la patience de Dieu, où chaque individu peut venir à Jésus-Christ et rentrer et trouver la paix avec Jésus-Christ en confessant ses péchés et en abandonnant sa vie passée à Jésus-Christ. Donc les disciples de Jésus-Christ sont obéissants à l'ordre du Seigneur qui leur avait commandé de ne pas s'éloigner et de partir de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. Tous sont ensemble dans un même lieu ce jour-là. Ils persévèrent dans un commun accord dans la prière. Tout est prêt maintenant pour la venue de l'autre consolateur. Pourquoi l'autre consolateur? Parce que le temps que Jésus était sur la terre, il était le consolateur lui-même. C'est lui qui consolait ses disciples. Et donc il devait être enlevé au ciel et il avait dit, « Moi, dit-il, quand je serai parti, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Le Seigneur veut nous donner un consolateur qui vivra éternellement avec nous, qui nous conduira jusque dans l'éternité. Cette venue s'accompagne de manifestations que les disciples peuvent entendre et peuvent voir. Le Saint-Esprit se manifeste de deux manières. Premièrement, un son, comme un souffle violent et impétueux. C'est une manifestation qui s'entend. Ce jour-là, il vient un vent impétueux. Tous sont dans l'étonnement. Et ce vent vient d'en haut. Ce vent est une puissance. Et les disciples la reçoivent. Ils en sont revêtus. Nous voyons dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, 49, là encore, c'est une promesse que Jésus avait faite. « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » La promesse est arrivée. Cette puissance leur était nécessaire pour qu'ils puissent accomplir la mission que le Seigneur leur avait confiée. Rendre témoignage au Christ ressuscité, et cela jusqu'au bout, jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que l'on pourrait être témoin de Jésus-Christ sans l'Esprit de Dieu? C'est impossible. Déjà, on est très timide avec l'Esprit de Dieu, et pourtant, le Seigneur nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais un esprit de puissance. Et pourtant, combien nous sommes encore très timides, je pense en tout cas pour moi, de partager notre foi au monde qui nous entoure. Et pourtant, nous sommes ceux qui sont équipés, nous aussi, comme les disciples, les premiers chrétiens, du Saint-Esprit pour propager cette bonne nouvelle. Ensuite, une autre manifestation qui se présente, ce sont des langues de feu. Ce sont une manifestation visible. On a vu le vent, on ne le voit pas, on l'entend, mais là on le voit, ce sont des flammes qui descendent sur les disciples, des langues de feu. Alors forcément, ça a dû être quelque chose ce jour de Pentecôte, de voir ces flammes de feu descendre sur chacun des apôtres. Ça a dû être une manifestation très forte pour toutes ces personnes réunies. Et on voit aussi que c'est un témoignage, la sainteté de Dieu, ces flammes, Dieu est un feu dévorant. On voit que Dieu, dans l'Ancien Testament, se manifeste souvent sous le feu. On le voit quand il conduit son peuple dans le désert, quand il sort d'Israël, il le conduit sous cette colonne de feu. Et on le voit déjà quand il se manifeste aussi dans le buisson ardent. Dieu parle dans un buisson qui est en feu. Enfin, vous pourrez regarder dans l'Ancien Testament, de nombreuses fois, le feu symbolise Dieu, la puissance de Dieu, la sainteté de Dieu. Ces deux points nous montrent deux actions du Saint-Esprit. Le vent témoigne à l'Évangile dans le monde entier. Le vent propage, on pourrait dire, ce vent de l'Esprit propage l'Évangile dans le monde entier. Et le feu a le sens aussi de nous sanctifier. L'Esprit de Dieu en nous nous transforme, nous change, nous sanctifie, nous rend aptes à servir le Seigneur. Sans l'Esprit de Dieu en nous, on est incapable de servir notre Dieu. Dieu nous sanctifie par son Esprit. Rappelez-vous, sur le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit s'était manifesté d'une façon différente. Il est descendu sous la forme d'une colombe. Encore un signe. Mais ce signe avait un signe de pureté, un signe de douceur. Et à travers ce signe, on a aussi à tirer un exemple pour nous. En tant que chrétiens, nous devons aussi acquérir les mêmes caractères que le Christ. Avoir la douceur de la colombe, la pureté, nous aussi, nous rechercher cette pureté dans nos vies. C'est ce qui devrait au moins caractériser la vie d'un chrétien. Oui, nous ne sommes pas parfaits, mais Christ en nous, nous change, nous transforme jour après jour. Donc la descente du Saint-Esprit est présentée en acte 2 d'une manière très simple. Il vient pour équiper les chrétiens, les disciples. On ne parlait pas de chrétiens à l'époque parce que ce sont les premiers chrétiens en fait. Les disciples de Christ deviennent les premiers chrétiens. Et donc ils se trouvent équipés de la puissance nécessaire pour accomplir la mission que le Seigneur leur a confiée. Porter la bonne nouvelle dans le monde entier. Ça reste toujours d'actualité. Rien n'a changé depuis la Pentecôte. Nous sommes toujours les porteurs de cette bonne nouvelle jusqu'aux extrémités du monde. Et c'est un événement capital et important, comme nous le montrent d'autres passages de l'Écriture. Chaque croyant le reçoit comme l'esprit d'adoption qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, nous dit l'Épître aux Romains. Notre corps devient l'habitation de Dieu, le temple du Saint-Esprit, la maison de Dieu. Ce n'est plus des bâtiments de pierre qui reçoivent, bien que les bâtiments de pierre n'ont jamais pu contenir Dieu. Dieu est trop grand. On ne peut pas le canaliser, notre Dieu. Ce n'est pas possible. Donc, il décide de venir habiter dans des vies, dans des gens qui croient en lui. Et Dieu fait son habitation en nous. Cette bénédiction individuelle est spécifique de l'époque actuelle, c'est-à-dire du temps de la grâce, comme je disais tout à l'heure, qui prendra fin aussi. Elle est pour tous les croyants à cause de l'œuvre parfaite accomplie par Jésus-Christ à la croix. On va lire quelques versets dans Galates. Galates 3, 26 et 4, verset 6. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Souvenez-vous que Jésus avait dit, peu avant de mourir, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le reconstruirai. » Et il parlait de son corps, il parlait de sa vie même. C'était pas en disant « Détruisez ce temple », les Juifs n'ont rien compris. En fait, ils détruisaient le corps du Seigneur. Il détruisait son corps, mais 3 jours après, il ressuscitait. Et donc, c'était le commencement de l'Église, puisque Jésus-Christ est la tête de l'Église. C'est également par le Saint-Esprit que Dieu habite dans sa maison, composée de l'ensemble des croyants qui sont sur la terre et qui constituent l'assemblée ou l'Église du Dieu vivant. Alors aujourd'hui, dans le monde entier, le Seigneur a son Église, sur toute la surface de la planète. Bien sûr, dans des pays, il y a plus de chrétiens que dans d'autres, parce qu'il y a des pays qui ne veulent pas entendre parler du christianisme. Mais il n'empêche que Dieu a quand même des enfants partout dans le monde. Et le Dieu vivant habite sur toute la surface de la terre par cette Église. Dieu a son temple sur toute la surface de la terre et il peut communiquer. Vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit, Éphésiens 2, 22. C'est donc en acte 2 que s'est réalisée cette parole. Nous avons tous été baptisés d'un seul Esprit pour être un seul corps. 1 Corinthiens 12, verset 13. Nous faisons partie d'une grande famille. Nous formons un corps unique, le corps de Christ, en fait, le corps de Christ, l'épouse du Christ. Alors la Pentecôte, c'est donc l'acte de naissance de l'Assemblée, composée de tous les croyants qui forment ensemble le corps de Christ. L'Évangile est un message universel. Nous voyons à partir du verset 4 à verset 13. On voit tous les personnages qui sont mentionnés dans ce passage. Dieu s'adresse à toutes sortes de nationalités là, qui sont venues à Jérusalem pour un événement extraordinaire. Et ils assistent à un événement extraordinaire en venant à cette fête. La puissance de l'Esprit-Saint se manifeste aussitôt dans la vie de chaque disciple. Ils sont capables de s'exprimer dans des langues qu'ils ne connaissaient pas, mais qui sont comprises par ceux qui les entendent. Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire aussi, que ce jour-là, des disciples puissent parler dans des langues différentes pour que tous les gens qui sont réunis là puissent entendre dans leur propre langue. Un miracle extraordinaire se produit ce jour-là. Dieu veut que son message soit compris de toutes les nations. Il n'y a pas de limite. Dieu n'est pas le sauveur que des Juifs, il est le sauveur des hommes dans son ensemble, sur toute la planète. Dieu est connu non seulement comme le Dieu des Juifs, mais comme le Dieu sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité, nous dit l'apôtre Paul en 1 Timothée 2, 4. Mais voilà, pour le peuple juif, c'était un changement difficile. Un changement difficile à accepter, car ils étaient jusque-là le peuple de Dieu, le peuple terrestre de Dieu. Choisi et mis à part par Dieu lui-même depuis cette sortie d'Égypte, Dieu avait voulu ce peuple à lui. Mais voilà, une page tourne, une grande page de l'histoire tourne ce jour-là à la Pentecôte. Nous sommes entrés dans une nouvelle dispensation. Le Seigneur veut, malgré tout, les aider à comprendre que maintenant rien ne sera plus comme avant la Pentecôte. Il veut aider son peuple juif à comprendre que rien ne sera plus comme avant. Dieu veut montrer que sa justice est manifestée avec tous, envers tous, et qu'elle est sur tous ceux qui croient en Jésus-Christ, quelle que soit leur nationalité. Le peuple juif a été un peuple rebelle. Nous le sommes aussi, on ne va pas jeter la pierre à ce peuple, mais nous sommes bien souvent, nous aussi, chrétiens. Et ce peuple qui était choisi par Dieu devait être le peuple qui devait communiquer la vie de Dieu aux hommes, aux païens de l'époque aussi, sur cette terre. Mais le peuple de Dieu a failli aussi à sa mission. Et Dieu en est arrivé à ce jour où il a rejeté son peuple, bien qu'il ne le rejette pas en partie. Chacun peut rentrer, quels que soient les individus qui choisissent de rentrer par Jésus-Christ, qu'ils soient hébreux comme on le voit tout à l'heure, qu'ils soient hébreux ou qu'ils soient français ou qu'ils soient anglais ou qu'ils soient américains ou je sais, ils ont le droit de rentrer. Tout le monde a le droit de rentrer. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu est un Dieu juste. C'est ça qui est extraordinaire. Par la mort de Jésus-Christ sur la croix, il a ouvert une ère nouvelle, un chemin nouveau. À Jérusalem, à la Pentecôte réunissait tous les fidèles conformément aux instructions de la loi. Voyons en Deutéronome 16, verset 16, que trois fois par an, trois fois par année, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, votre Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, et à la fête des semaines, et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Ce jour-là, à la Pentecôte, à cette fête, en fait, c'est la fête qui a amené ces gens ici, la fête des pains sans levain, la fête des semaines, la fête des tabernacles, qui a réuni tous ces gens qui ont pu entendre les apôtres et voir les manifestations qui se sont réalisées ce jour-là. Comme à la Pâque et à la fête des tabernacles, il y avait là une multitude de juifs et de non-juifs, prosélytes. Les prosélytes, ça veut dire des gens qui s'étaient convertis au judaïsme, qui venaient de toutes sortes de pays et qui sont venus ici aussi ce jour-là. Ils croyaient en Dieu. Et donc, ils entendent ce message et ils sont forcément bouleversés. Ces hommes pieux s'assemblent à la rumeur et ce qui vient de se produire, et ils entendent de ces hommes galiléens sans instruction annoncer dans leur langue des choses magnifiques de Dieu. Des gens sans instruction qui sont en train de parler des choses de Dieu. On pourrait dire, mais ils ne sont pas compétents. Mais quand on dit les choses de Dieu, ce n'est pas les choses de nous, c'est les choses de Dieu. Donc même si on n'est pas compétent, c'est Dieu qui parle, ce n'est pas nous qui parlons. Donc on partage ce que Dieu dit. Et ces hommes qui avaient reçu l'Esprit de Dieu, comme Pierre, c'était un homme qui était pécheur, il n'était pas instruit, mais il était convaincu. Dieu était rentré dans sa vie, Dieu l'avait transformé, il avait vécu des choses terribles, Pierre. Il a renié son maître, mais en fait le Seigneur l'a relevé. Il reçoit l'Esprit de Dieu, il est bouillonnant. Il veut faire passer son message. C'est extraordinaire. Dieu l'a transformé. Et c'est des hommes comme ça que Dieu cherche aujourd'hui encore. Des hommes qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, qui ont envie de partager la parole de Dieu. C'est là la démonstration divine que désormais la bénédiction s'étend maintenant au monde tout entier. Dieu apporte un remède en grâce au jugement qu'il a prononcé plusieurs siècles plus tôt, au jour de la tour de Babel. Souvenez-vous, cette tour de Babel où Les hommes s'étaient réunis ensemble pour parler tous la même langue. Ils parlaient tous la même langue à l'époque. Ils voulaient se passer de Dieu. Ils n'avaient pas besoin, ils n'avaient plus besoin de Dieu. C'était dire, montons-nous une tour et allons jusqu'au ciel. Et Dieu s'est manifesté là, en changeant, en transformant les choses. Dieu apporte donc un remède en grâce en ce jour de Pentecôte. Si la tour de Babel a été la confusion des langues, les gens ne pouvaient plus se comprendre. Ça a été le moment où il y a eu toutes ces différentes langues que l'on rencontre maintenant dans le monde entier. Eh bien, à la Pentecôte, tous les hommes de toute nation qu'ils soient entendent dans sa propre langue. Ce n'est pas que le Seigneur veut rétablir une langue universelle, comme le recherchent bien souvent les hommes, mais Dieu veut que sa parole puisse être lue et comprise par tous les peuples dans le monde entier. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui encore à nouveau, puisque il permet à des centaines, à des millions de Bibles qui sont distribuées dans le monde entier, des Nouveaux Testaments, des portions de la Bible, qui sont traduits dans plus de 2000 langues ou dialectes différents. Et il permet, par ce moyen, que ça soit diffusé dans le monde entier, chaque année. Et tout cela pour que l'homme puisse entendre les merveilles de Dieu sur toute la surface de la planète. Les Juifs et les hommes des diverses nations qui entendent dans leur langue les choses magnifiques de Dieu sont interrogés et leur intention est attirée par cet événement. Et le Seigneur répond à leurs questions par la bouche de Pierre, dans la langue courante des Juifs, qui en ce temps-là était l'araméen. C'est la première réunion d'évangélisation, on pourrait dire c'est la première réunion d'évangélisation qui a lieu ce jour-là à Jérusalem. La première des réunions d'évangélisation, ce n'était pas Billy Graham qui prêchait, mais c'était Pierre et les autres apôtres. Donc Pierre, comme on a dit tout à l'heure, un homme sans instruction, mais entièrement convaincu et rempli du Saint-Esprit. Et c'est ça qui compte. Si nous sommes convaincus de partager la vérité de Dieu. Est-ce que nous sommes convaincus que nous avons la vérité de Dieu à partager là? Ça nous manque parfois, la conviction. Alors, Pierre, qui est habitué, lui a jeté le filet. Il jette son filet sur cette foule. Lui qui est pêcheur, Jésus lui avait dit, je te ferai pêcheur d'hommes. Hop, il jette son filet. Ce jour de Pentecôte, combien de personnes? 3000 personnes qui se convertissent à Jésus-Christ. On aimerait, sinon, en réunion d'évangélisation, même qu'il n'y ait qu'une personne qui se convertisse, on est content. Mais là, 3000 personnes. Ça devait être bousculant, extraordinaire. C'est vrai, hein? Un si merveilleux message qui n'est pas écouté ni entendu. Dieu nous propose des choses merveilleuses que le monde refuse. y a de quoi pleurer. Pierre expliqua, poussé par l'Esprit de Dieu, il dit, ainsi il fallait que le Christ souffre, qu'il ressuscite d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance et la rémission des péchés soient prêchées en son nom à toutes les nations, commençant par Jérusalem. Voilà le commencement de l'Évangile sur la terre, en commençant par Jérusalem. Alors, voilà. Nous sommes depuis plus de 2000 ans entrés dans cette nouvelle ère et le Seigneur continue d'ajouter chaque jour dans son Église tous ceux qui reconnaissent leur culpabilité sur toute la surface de la terre. Il y a des pays où l'Évangile est bien plus reçu que dans nos pays à nous. Nos pays industrialisés n'ont pas besoin de Dieu, on est trop riches. Mais les pays pauvres, dans certains pays, les gens se convertissent. Il y a des réunions comme ça d'évangélisation, mais les gens se lèvent, paraît-il, mais c'est extraordinaire. Mais chez nous, non. Quand est-ce que les gens vont se lever pour se tourner vers Dieu, on ne sait pas. Les gens n'ont pas besoin du Seigneur chez nous. Et pourtant, ils sont aussi malades que les autres, sinon plus. Enfin, il n'y a pas de plus grand malade que de petits malades. Le péché, c'est une maladie qui conduit à la mort, de toute façon. Si on ne prend pas le remède, on est perdu. Et bien qu'on le connaisse, le remède, personne n'en veut. Quand le docteur il vous donne un remède, si vous ne le prenez pas, ben, ma foi, vous prenez le risque de ne pas être soigné et de finir par mourir. Dieu a donné un remède, Jésus-Christ. On en veut ou on n'en veut pas. Mais le problème, c'est que là, c'est l'éternité qui est en jeu. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas deux jours, ce n'est pas une semaine. C'est l'éternité qui est en jeu. Et on ne peut pas revenir en arrière. Jésus dit, après la mort, c'est le jugement. On n'a pas le choix. On a le choix maintenant. Alors voilà, aujourd'hui, la porte est ouverte. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre chemin qui ait été donné sous le ciel, Jésus-Christ. Pas d'autre nom qui ait été donné, à savoir Jésus-Christ. Alors, c'est un choix personnel. On n'obligera personne à rentrer dans l'Église de Jésus-Christ, mais ça s'impose. L'amour de Dieu s'est manifesté sur la croix. Jésus a donné sa vie pour que les hommes héritent de la vie éternelle, qu'ils soient pardonnés de leurs péchés. Alors, prenons-le, saisissons cette occasion qui nous est offerte encore aujourd'hui. Demain ne nous appartient pas. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur, nous dit la parole de Dieu. Alors moi aussi, ce matin, je vous invite à prendre la décision, si vous ne l'avez pas fait encore dans vos cœurs, accepter Jésus-Christ comme votre sauveur.